France Culture.
Bonsoir Yam Abbas.
Bonsoir.
Et merci de nous accueillir pour ce quatrième opus de la semaine à voix nue dans votre salon ici à Paris, dans le 12e arrondissement où vous vivez entouré des souvenirs de votre vie plurielle. Alors hier soir, nous terminions sur cet exil qui vous a happé et qui vous a permis d'entamer une carrière international. Alors, première étape de cet exil, la Grande-Bretagne. Alors, pourquoi la Grande-Bretagne, qui à bien des égards est responsable au regard de l'histoire de la Palestine depuis plus de 100 ans, responsable de la réalité actuelle palestinienne dans toute sa diversité. Alors, pourquoi l'Angleterre, l'ancien colon?
Bah, pour ne pas punir les Anglais, je me suis mariée avec un Anglais. C'est pour la blague. Pourquoi l'Angleterre? Effectivement, vraiment pour une raison très pratique, c'est que j'ai été mariée avec un Anglais, donc on en a parlé dans les épisodes précédents. C'est cette bataille que j'avais menée avec mon père justement pour faire ce que je veux, et une partie de ce que je voulais à l'époque, c'était cet homme qui rentrait dans ma vie et qui travaillait en Palestine. J'avais fait sa connaissance là-bas, et à un moment, je voulais aussi partager un peu sa vie à lui en Angleterre. Et à un moment, on a vraiment aussi décidé de faire ce voyage ensemble. Et c'est ça qui m'a amené par la suite à me dire, bon, j'aurai au moins en Angleterre un endroit où je peux respirer cet air propre, cet air autre que dont on en a parlé hier. L'Angleterre, parce que aussi... c'est un endroit pas loin de la Palestine, et à la fois c'était un endroit où je pouvais maîtriser la langue et je pouvais m'épanouir dans une langue autre, dans une école peut-être là-bas. Donc toutes ces raisons font que j'ai décidé d'aller là-bas et pas aux États-Unis. Mais ça aurait été un pays où on parlait anglais de toute façon, parce que à l'époque vraiment je me voyais pas apprendre une nouvelle langue en Allemagne ou en France ou ailleurs. Et c'est après avoir débarqué en Angleterre en fait que voilà, les choses n'allaient pas très bien avec ce monsieur et que on s'est séparés et je suis venue à Paris.
Alors avant de parler de Paris, quand vous partez, quand vous décidez de partir, alors c'est compliqué dans votre famille, surtout pour votre mère, c'est quoi? C'est pour elle, c'était une rupture
Je crois que dans ma famille, les départs, ils sont toujours très difficiles, en fait, parce que je crois qu'il y a vraiment un trauma de départ, en fait. C'est comme si on sait toujours, quelque part, à l'intérieur de nous, qu'un départ, ça veut dire sans retour. Et est-ce que c'est la Nakba qui a fait ça? Est-ce que vraiment l'héritage de ma grand-mère et le vécu de ma mère à travers aussi cette Nakba qui a fait cet exode, en fait, qui a fait que dès qu'on parlait départ, il y avait vraiment une angoisse qui s'est installée, et cette angoisse, des fois, nous empêchait, en fait, d'avancer quelque part. Et moi, je savais qu'à l'époque, pour pouvoir y aller, je devais rassurer mes parents, ma mère surtout, que c'est juste un bout de temps et je reviens. Même moi, je crois que je me suis dit ça parce que je crois que j'avais besoin de me dire ça, parce que j'avais besoin de garder ces attaches aussi. La vie a fait que ça a tourné autrement et que ma mère avait raison.
Alors vous arrivez en France, alors là c'est terra incognito.
Carrément, vraiment complètement. J'avais rencontré le père de mes filles, et c'est la raison pour laquelle je suis venue en France. Mais pareil, en fait, quand je suis venue en France, nouvelle relation, on ne sait pas où ça nous amène. Je voulais prendre un appartement seul, parce que je voulais vraiment pas me sentir dépendante de quiconque. Et lui, il a insisté à ce qu'on vive ensemble. Mais voilà, c'était une rencontre vraiment avec le père de mes filles. Et très vite, on a décidé de fonder une famille. Et très vite, on a décidé... en fait, j'ai l'impression que les conditions de cette relation ont fait que aussi, quelque part, je me suis donné une nouvelle mission d'être mère. Et je savais très bien qu'il y avait peut-être une concession à faire sur le métier et sur ma carrière d'actrice, mais ça me faisait pas peur, en fait. J'avais l'impression que j'étais vraiment en paix avec moi-même, pour prendre cette décision, parce que j'avais envie aussi, c'est un projet de vie, j'avais envie de le vivre pleinement. Donc je faisais des petits boulots par-ci par-là, qui n'avaient rien à voir avec le jeu, ou des fois des silhouettes dans là où c'était possible, où il y avait un rôle, on l'appelait comédien mime à l'Opéra Bastille pour Carmen, avec José Luis Gomez. Donc j'avais dit oui, je suis allée le faire. En fait, ils ont vu 400 personnes, ils ont pris 8 filles, j'étais parmi les filles qui étaient prises. Et j'étais très contente de faire tout ça, parce que à la fois, j'avais l'impression que de rester en contact avec avec mon métier, avec ce que j'aime faire, et à la fois, il y avait un projet peut-être à l'époque plus grand que mon désir personnel, et c'est d'être mère, d'être vraiment de fonder une famille, c'était pas rien. Et donc c'est je l'ai fait pleinement, et en même temps, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur la France, d'apprendre la langue. Je me souviens, même pour apprendre la langue française, en fait, je regardais des films en anglais et avec des sous-titres, et je lisais les sous-titres pour pouvoir comprendre comment cette langue s'écrit. Et après, je réécoutais la phrase. En fait, tout ce que je faisais à l'époque, c'était vraiment pour renforcer quelque chose de cette France et de cette langue à l'intérieur de mon système, en fait, qui amassait pas mal des choses pour après s'exprimer peut-être en France en tant qu'actrice beaucoup plus tard.
Alors cette famille, vous la fondez avec quelqu'un qu'on connaît bien en France, Zinedine Soualem. Mm-hmm. Zinedine Soualem, d'origine algérienne. Alors il y a une histoire commune entre lui et vous.
Jeune, j'étais très attachée à l'histoire de l'Algérie et ses longues années de colonisation française, en fait, en Algérie, et que l'Algérie s'est libérée après 130 ans, et ça donnait un espoir. À quoi, je peux pas vous dire, mais dans ma tête d'enfant, je me souviens, quand j'étais jeune, j'ai vu, par exemple, le film La Bataille d'Alger, et ça m'a beaucoup marqué. Je ne sais pas comment je l'ai vu. Vraiment, j'arrive pas à me souvenir de où et comment, dans quelles conditions. Mais il m'a époustouflé, en fait. Mais à un niveau humain, d'apprendre tellement de choses sur l'Algérie et ce qui s'est passé, l'histoire de l'Algérie. Et à la fois, une sorte de comparaison, en fait, la bataille pour une libération quelconque d'un peuple. Et comment on s'identifie en quelque sorte à cela, et comment on aperçoit en fait l'autre à travers sa propre souffrance ou son propre histoire ou le conflit dans lequel on vit. On trouve la place à d'autres souffrances et à d'autres conflits dans le monde, de s'installer à l'intérieur de nous, comme si c'était une partie intégrante en fait des conflits pour l'humanité, en fait, le travail que chacun fait, la responsabilité qu'on prend sur ce qui se passe autour de nous. J'ai l'impression que moi, c'est un film par exemple qui a beaucoup contribué à cela chez moi. Bon, j'ai sauté sur autre chose. En tout cas, on a beaucoup parlé effectivement avec Zindine à l'époque. Et aussi, on savait très bien qu'on allait avoir les deux filles qui sont en fait françaises, mais quand même avec une identité algérienne et une identité palestinienne. Donc, il y avait quelque chose qui rassemblait à l'intérieur de nous et nos filles beaucoup de choses en commun.
Alors ça, on va en parler un peu plus tard, mais revenons donc à votre carrière en France, parce que vous dites, oui, j'ai fait des petits boulots, mais enfin, vous vous retrouvez assez vite avec Ariane Mouchkine, avec Patrice Chéreau. Alors comment on passe des petits boulots de silhouette aux planches avec Ariane Mouchkine?
Alors Ariane, c'était vraiment le tout début. Je crois qu'Ariane m'a donné l'espoir de pouvoir peut-être arriver quelque part, même si la langue est un obstacle. Ce qui s'est passé, c'est que Zindine travaillait chez Ariane, donc j'ai rencontré Ariane à travers lui, et aussi à travers le Hakawati, parce qu'on connaissait Ariane un peu avant.
Donc la troupe de théâtre
La troupe de théâtre palestinienne dans laquelle j'ai travaillé à Jérusalem-Est. Quand je suis arrivée en France, Ariane préparait un film qui s'appelle toujours « La nuit miraculeuse ». Et elle avait une partie théâtrale sur la Révolution française. et le décret des droits de l'homme, et une partie un peu plus quotidienne, j'ai envie de dire, un peu plus contemporain. Et donc, elle a demandé à ce que je fasse le casting. Bah, je lui dis, Ariane, tu sais, je parle pas français. Elle me dit, je m'en fous, tu parles la langue que tu veux. Donc, je fais le casting avec elle. Et le lendemain, c'est elle-même qui m'appelle. Et elle me dit, je veux que tu fasses le rôle, mais il faut que tu apprennes le français phonétiquement. Et elle m'envoie les pages que je devais apprendre. Et effectivement, j'ai appris phonétiquement avec un accent, mais à couper au couteau. Bon, en fait, parce que je me souviens, il y avait une phrase où je devais dire, si tu la touches, je te tue. Et jusqu'à aujourd'hui dans le film, c'est « si tu la touches, je te tue ». Parce que j'arrivais pas à dire les « u » à l'époque. Et c'était vraiment le début. Et donc, je parlais pas encore français du tout. Donc, j'étais même pas, mon oreille n'était pas habituée. C'est vraiment à mon arrivée à Paris pour vivre à Paris. Et donc, ça m'a donné vraiment beaucoup de courage, en fait. Je me suis dit, bon, peut-être dans ce pays, il y a une acceptation de l'étranger avec son accent, avec sa façon d'être. Et ça m'a vraiment appelé quelque part positivement à la vie en France. J'ai pas d'explication, en fait, comment les choses se sont enchaînées et pourquoi et comment. Chaque rencontre avec chaque réalisateur ou réalisatrice est une histoire dans ma vie. Chéron, notamment. C'était un jour, il a lu le journal Libération, où je crois que c'était une page, la page arrière, où il y avait une interview pour moi, si je me trompe pas, pour Les Citronniers. Et je reçois un coup de fil comme quoi Chiro veut te rencontrer. Ben, je vais le voir. Je le vois avec le journal devant lui. Et il lit, il m'a dit, j'adore vos propos. Je suis en train de préparer un film. J'aimerais beaucoup travailler avec vous, mais j'ai pas de rôle. Et là, je le regarde et j'ai dit, bah, quand vous voulez. Donc, vraiment, c'était incroyable. Et donc, 2 jours après, il m'appelle, il m'a dit, je crois que j'ai trouvé la solution. Je vous ai écrit un rôle, mais je m'excuse par avance parce que vraiment, ça va pas être grand. Et j'ai dit, je vous dis avec plaisir, donc ça sera avec plaisir. Même un passage dans votre film, ça me ferait plaisir. Par rapport à cette rencontre, en fait, c'est juste, je ne sais pas, c'est l'humanité qui m'appelle, en fait. C'est l'humanité quand elle se mélange avec le professionnel. Il n'y a rien d'autre qui me fait plaisir plus que ça. Et même, je me souviens, une semaine plus tard, il a écrit, il m'amène le scénario. Et moi, je pensais qu'il allait me l'envoyer. Non, il voulait prendre un café avec moi pour me le donner à la main. Donc, il y a des gens grands, il y a des grands hommes, grande H et femme avec grande F dans ce monde dans lequel on vit, et Chiro en fait partie. Et c'était vraiment une rencontre.
Alors il y a un rôle aussi qui vous a fait connaître, celui que vous jouez dans Satin Rouge de Raja Amari, film dans lequel vous incarnez une mère de famille qui s'adonne à la danse du ventre, ouais, comme une ode à l'émancipation des femmes tunisiennes. On est 8 ans avant le printemps tunisien. C'est prémonitoire, ce film?
Possiblement. Après, je crois que pour Raja comme pour moi, c'est un film qui était un tournant dans notre vie professionnelle. Parce que, étant femme dans le monde arabe et en sachant qu'aussi à l'époque, il y avait une sorte de montée d'islamisme aussi, que quelque chose comme nos parcours et nos propos dérangeaient, en fait, cette mouvance, c'était très important de trancher, en fait. Et c'est vrai que la décision était pas facile, que ça soit pour elle ou Pour moi, je me souviens, je me suis trouvée face à, je fais ce film, donc je deviens vraiment actrice et donc responsable de mes choix et aller jusqu'au bout de moi-même pour servir ce métier. Et sinon, je reste chez moi parce que je succombe à la peur et au poids de la tradition de nouveau. Donc longtemps après mon départ, me trouver dans cette situation-là, parce que je savais qu'il y avait des scènes osées, des scènes qui sont pas faciles à être acceptées dans ma société et avec mes proches. Je devais vraiment, genre fermer les yeux, prendre une bonne bouffée d'air, remplir mon cœur d'amour et dire, bah, je fonce. Et ce qui arrivera, arrivera.
Et alors ce rôle, c'est le premier d'une longue série où vous incarnez ces femmes empreintes de féminisme, de liberté, d'émancipation. Vous parliez de la montée de l'islamisme. Quand on vous voit dans « À mon âge, je me cache encore pour fumer » dans ce hammam algérien, vous incarnez toutes ces femmes du monde arabo-musulman qui veulent s'émanciper.
Toutes, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, il y a certains personnages que j'avais fait qui un peu s'éloignaient le monde arabe, je dirais. C'est vraiment des femmes qui sont vues aussi par des personnes de là-bas avec une envie vraiment de transcender quelque chose et transcender justement peut-être toutes ces clichés, stéréotypes qu'on a sur la femme arabe et donner vraiment à la femme et son combat la place qu'elle mérite dans la société. Après, c'est pas juste une déclaration féministe de ma part, c'est que en fait, moi, pour décider d'un rôle, je mets pas mes opinions en fait politiques face à moi dans ma décision. Je décide parce que j'ai un élan vraiment émotionnel et intellectuel envers ce personnage. Je sens que son combat m'intéresse, donc j'ai envie de le faire.
D'ailleurs, vous allez en parler vous-même dans vos propres films. Je pense à Héritage, un film qui raconte ce mariage éphémère en pleine guerre entre Israël et le Liban en 1982. Je pense à Noces en Galilée. C'est des histoires extrêmement fortes à chaque fois. C'est ces femmes, en fait, qui sont porteuses de tous ces espoirs dont vous parlez.
Oui, après, bon, moi, j'ai grandi vraiment dans une société où, pour moi, comme on parlait déjà précédemment, pour moi, le combat de la femme était mis de côté. Mais comme moi, j'ai décidé de la mettre en avant, mais je l'ai jamais privilégiée par rapport à un combat politique. Donc, pour moi, le combat féministe était aussi aller ensemble avec le combat politique. Et j'avais l'impression, pour faire cela, c'est qu'il faut que je reste main dans la main avec l'homme et que je l'amène à croire à mon combat, mais ensemble, on avance pour arriver quelque part. Et donc, c'est pour ça aussi, pour moi, tous ces films relèvent de la complexité de la société palestinienne et de la société vraiment tout court, la complexité d'une société tout court. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de toujours mettre peut-être les parcours de ces femmes en avant, mais dans un cadre social où il y a un mélange en fait de sexe, d'hommes et de femmes, des vieux et des jeunes. Et tout ça fait que on raconte une histoire beaucoup plus authentique et pas arrachée d'une réalité, même si on a envie de changer les codes, les facteurs, tout ce qui compose un film ou un scénario, on reste quand même avec une vérité qui pour moi est très importante.
Vous parlez aussi beaucoup de ces femmes palestiniennes, justement, parce que et puis vous explorez leur place dans cette société palestinienne, mais surtout dans la société arabe-israélienne, parce que c'est une identité bien particulière.
Oui, effectivement, dans mon film, on parle pas nécessairement de la Palestine de Gaza ou la Palestine de Cisjordanie ou ailleurs, parce qu'on sait qu'on a dit hier que les Palestiniens se trouvent un peu partout avec des identités différentes dans les pays où ils se retrouvent. Et là, c'est pour moi, c'était une histoire sur une famille palestinienne d'Israël, du nord d'Israël, où le conflit politique général sur un fond de guerre, énième guerre entre le Liban et Israël, faisait en fait l'enveloppe de cette histoire, mais l'intérêt de l'histoire elle-même se trouvait dans le combat d'une jeune fille qui voulait vivre sa vie et être capable de prendre des décisions sans toutes les contradictions et sans toutes les contraintes traditionnelles et sociales qui pouvaient l'entourer. Donc c'est vraiment des conflits interfamiliaux qui se trouvait, dramatiquement parlant, dans une un conflit plus grand, qui, encore une fois, cette guerre, et que je l'ai présenté, je présentais la guerre, notamment, pas vraiment par une guerre physique, c'était une guerre de son. Donc c'était dans le son, dans le passage des avions, d'un côté ou à l'autre, qui dérangeait carrément, ou une bombe d'un seul coup qui tombe et qui va faire éclater ce mariage dont on parlait. Voilà, je voulais rendre hommage à cette société palestinienne qui vit dans ce territoire, en fait, qui est devenu Israël par la suite depuis 48. Je voulais rendre hommage à ma famille, à des gens que j'ai quittés depuis longtemps, à qui je devais beaucoup et je devais beaucoup d'amour.
Alors, ensuite, vous multipliez les expériences. Alors, vous tournez avec Amos Gitai, avec Eran Riklis, le réalisateur israélien. Et puis, vous tournez avec Ridley Scott, Jim Jarmusch, Denis Villeneuve, le Canadien. Puis alors, il y a Steven Spielberg qui, à un moment donné, vous contacte pour vous demander d'être consultante sur le film Munich, qui relate donc les Jeux Olympiques de Munich et la prise d'otage des athlètes israéliens par l'organisation Septembre Noir. Pourquoi est-ce que Spielberg vient vous chercher pour être consultante sur ce film ?
En fait, il est venu me chercher pour jouer un rôle, parce qu'il m'avait vu dans La fiancée syrienne. Et là, j'étais sur Babel avec Alejandro González et Iñárritu. J'étais en train de faire un acting coach, en fait, pour tous les personnages marocains qui n'étaient pas des acteurs. Et vraiment, je me sentais que le monde était loin de moi. Et comme mon agent m'a appelé pour me dire que Spielberg, ils veulent que tu fasses un rôle dans son film, j'ai dit, arrête de déconner, de quoi tu parles? Vraiment, je croyais pas que c'était vrai, en fait. Et il s'avérait que, oui, effectivement, c'est ce qu'il voulait. Et moi, j'ai dit, j'aimerais lire le scénario. On m'a dit, non, c'est pas possible. J'ai dit, OK, donc, si c'est pas possible, moi aussi, c'est pas possible pour moi. Une semaine plus tard, on m'appelle, on me dit, bon, on va vous envoyer le scénario, vous allez le lire. Et petit à petit, les choses, en fait, m'ont dépassé dans le sens où, dans sa tête à lui, il avait un autre but, en fait. Il voulait vraiment arriver à ce qu'on fasse quelque chose ensemble, mais sans prétention aucune. Vraiment, j'avais aucune notion. Donc, on me dit, il voudrait que tu fasses, tu coaches les acteurs aussi. Et j'ai dit, moi, ça m'intéresse pas. Là, je viens de vivre 3 mois de coaching avec Iñárritu. J'ai l'impression que, voilà, tout ce que j'ai donné, et c'est pas mon intérêt dans ce métier. Non, mais ça va être juste 2 semaines au début, 2 semaines à la fin. Je dis, OK, si c'est comme ça, je le fais. Et finalement, je dis oui, j'arrive sur le plateau, et là, je vois ce monsieur qui ouvre les bras, qui arrive vers moi. Et je croyais vraiment pas. Et là, il me fait, mais t'as pensé quoi du scénario? J'ai fait, c'est pas possible, quoi. Et donc là, j'étais tellement invitée à dire ce que j'ai à dire que j'ai dit les petites choses aussi que je trouvais pas justes. Et là, il appelle Tony Kushner et il a dit, j'aimerais bien que tu te sois avec Iyam et que vous parliez de scénario. Donc j'ai dit à Tony le lendemain ce que je trouvais peut-être historiquement parlant, parce qu'on mélange souvent les Palestiniens d'Israël avec d'autres Palestiniens, le Palestinien avec la religion, et donc vraiment j'ai fait quelques notes sur la réalité de l'époque. Et là, d'un seul coup, il me dit, oh, j'aimerais bien aussi que tu sois coach pour les acteurs aussi qui jouent les Israéliens. Bon, ok. Petit à petit, je me trouve à faire les 4 mois avec eux. Et ma fille, elle vient me voir et il prend ma fille pour jouer dans le film. Donc tout était vraiment une rencontre improbable dans ma vie, en fait, avec ce monsieur. Et voilà, j'ai raccourci l'histoire parce qu'elle est trop longue.
Alors, avant de revenir sur un film qui, moi, m'a beaucoup touché, qui est le film que vous avez réalisé, enfin, dans lequel vous jouez, film réalisé par Michel Cléphy, Noces en Galilée, comment vous vous retrouvez aux États-Unis à jouer pour HBO dans Succession?
C'est vraiment c'est juste pareil, un coup de
série mondialement connue.
Oui, en fait, pareil, j'étais en train de tourner une série avec un réalisateur anglais sur l'État islamique, qui était mon deuxième projet avec lui, Peter Kosminski, et en fait, je reçois un coup de fil de mon agent qui me parle d'une série HBO, en fait. Je ne sais pas, en fait, il y a des choses vraiment pour rester vraiment ample J'avais l'impression que je n'ai jamais misé sur un rêve particulier sur ce métier. J'ai jamais eu par exemple le dream américain. C'était pas nécessairement ce qui m'a motivé dès le départ. Et arriver en France, c'était aussi un hasard dans ma vie. Il y a des circonstances comme ça d'une vie et de l'avancement dans la vie qui m'ont amené des très belles surprises. Et je suis très reconnaissante. Et parce que vraiment, encore une fois, je crois profondément que le chemin, pour moi, était toujours aligné avec une lumière au lointain qui m'appelait à avancer.
Alors c'est pour ça que je parlais de Noce en Galilée, puisque c'est l'histoire d'un défi au cours duquel deux dieux, au sens tragique du terme, vont s'affronter. Deux dieux incarnés par le détenteur du pouvoir militaire israélien et ce qu'on appelle le Mouktar, le détenteur du pouvoir patriarcal. Alors c'est quoi? C'est la métaphore, le temps d'un mariage, d'une paix possible. C'est ça la lumière?
Oui, je crois que c'est... On peut dire ça comme ça. Effectivement, pour moi, ce film était la première expérience cinématographique de ma vie. J'étais en train de travailler avec Théâtre El Hakawati. Il y a Michel Khlefi qui arrive de Belgique. Il veut faire sa première fiction. Effectivement, il vient chercher parmi les Palestiniens, à part les acteurs de théâtre, on n'a aucune connaissance cinématographique. Il n'y a pas de production. Il n'y a pas de boîte de production. Donc, il a fait appel à tous les gens qui travaillent dans l'art pour pouvoir l'aider à faire le film. Donc, je me suis trouvé secrétaire de production sur le film. Je connaissais rien de tout ça. Je connaissais pas le cinéma nécessairement et la fabrication cinématographique. Je n'ai jamais mis les pieds auparavant sur un plateau de cinéma. Et là, j'ai découvert le monde vraiment qui m'a appelé par la suite. Donc, à travers ce film, à travers cette métaphore, comme vous l'avez appelée, je me suis trouvée aussi à faire un petit rôle au dernier moment où Michel m'a confié un rôle silhouette. Je me souviens de la sensation devant la caméra qui était complètement nouvelle et autre de toute autre sensation que je pouvais approuver auparavant de cette relation du corps au travail de l'acteur. Et là, j'ai compris qu'il y a un lien entre la photo et entre mon corps d'actrice, peut-être. Et bien, la question était restée ouverte jusqu'à plus tard, quand je me suis trouvée, effectivement, à faire vraiment beaucoup, beaucoup de films et à continuer à tracer ma carrière au cinéma.
Alors, vous dites, je n'aime pas les paillettes et tout ce qui vient avec le travail à l'écran. Dans ma vie, j'aime vivre simplement, aussi simplement que je peux. J'essaye en tout cas de me discipliner, ne jamais oublier d'où je viens. Je prends le métro, je prends le bus, une façon d'exister normalement comme une Palestinienne en exil. Mais ça, Yamabas, c'est une autre histoire que vous allez nous raconter demain, lors de notre dernier entretien à voix nue de la semaine, hélas. Mais en attendant demain, je vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute des programmes de France Culture, évidemment.
Merci.
C'était À voix nue, Alain Lefkovitch avec Yamabas, chargé de programme Daphné Abgral, à la prise de son Thomas Robin, à la réalisation Guillaume Baldi, une série que vous pouvez bien évidemment réécouter sur le site et l'application Radio France.